France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Alors évidemment, quand on me parle des gens que j'ai admirés, les gens qui me semblent étonnants, on ne peut pas passer à côté d'un écrivain problématique, d'un écrivain scandaleux, d'un problème absolu dans l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire Louis-Ferdinand Céline. Et Céline, quand je l'ai rencontré, je me souviens très bien, j'avais 17 ans, c'est un marginal, un total marginal, un voyou merveilleux qui s'appelait Jojo, qui avait des yeux bleus très clairs et qui me dit « Lis ça, j'avais à peine 17 ans ». J'ai ouvert ce livre, j'avais lu peu de livres, j'avais lu, je me souviens, Salinger, j'avais lu, j'étais apprenti coiffeur, donc j'avais pas le temps beaucoup de lire parce que je me levais tôt. Et puis quand j'ai lu le premier texte, et c'était une promenade avec sa mère quand il est blessé pendant la guerre de 14-18, et j'ai eu une sorte de révélation. Alors cette révélation, c'est ce texte où il dit « Alors, j'avais écrit enfin à ma mère ». Alors avant de vous dire ce texte, il est évident que je peux pas mettre de côté la catastrophe. Évidemment, j'écoutais Régis Debray dans une émission littéraire tout à fait remarquable. Il disait « Paul Morand, je le trouve talentueux, mais je ne dînerai jamais avec lui. Céline, c'est pareil, ce sont des gens abjects, mais des artistes. » Et Debray continuait en disant « Incontournable, Céline, par le voyage au bout de la nuit, a transformé toute la littérature. Il a eu ce projet dément de restituer l'émotion du langage parlé dans le langage écrit. Et il a fait ce voyage au bout de la nuit. Le voyage au bout de la nuit, il faut quand même savoir que ça a été acclamé par la gauche. » Alors moi, je savais pas tous les détails que j'ai appris plus tard. La collaboration, enfin tout d'un coup, son adhésion par haine du communisme à toute la pensée, en gros, d'extrême droite de l'époque. Et son truc ayant été en guerre... Ah, je vais pas en parler, moi je suis pas un historien. Il a fait la guerre de 14-18, il a même été décoré comme héros. On peut contester, il y a tellement de choses écrites sur Céline... Mais il a quand même connu une des plus belles pages écrites sur la guerre de 14, c'est quand même dans Le Voyage au bout de la nuit, le premier chapitre. Et puis, ayant vécu la guerre, qu'il l'ait vécu pas longtemps ou longtemps, en tout cas, il a reçu une bombe dans l'oreille, on l'a trépané, je crois que ça c'est un peu mensonger, car chez Céline, tout étant plus extrêmement exagéré. Mais enfin, il a quand même été blessé gravement, le bras fonctionnait plus, et il a eu une telle horreur de la guerre qu'il a écrit Le Voyage au bout de la nuit, et tout d'un coup, la gauche s'est dit « Mais on tient le nouveau Zola, mais c'est prodigieux, enfin un homme qui parle des classes laborieuses, un homme qui parle de la banlieue, de l'Amérique, des gens pauvres, des travailleurs. » Alors évidemment, il en parle avec une dureté qui, moi, me semble plus digne que le sentimentalisme compatissant de certains écrivains ouvriéristes. Moi, je préfère la dureté de Céline, car je trouve qu'elle donne à tout ce peuple autant de dimensions qu'une compassion affective. Donc je sais, j'ai lu après, j'ai été même troublé, cet homme génial est humainement impraticable. Alors je me suis dit à un moment, est-ce que je dois continuer à dire du Céline? Je me suis souvent posé la question. Alors je me suis dit, est-ce qu'on peut jouer du Wagner? On sait, l'antisémitisme est total, il a écrit des pamphlets immondes en 36. Jusqu'en 41, je crois. Et la grosse horreur, c'est qu'en 36, on pouvait imaginer qu'on ne savait rien, mais qu'il a voulu qu'il soit réédité. Donc le dossier Céline est indéfendable. Alors moi, je vais vous parler du petit Robert, enfin de Fabrice, quand j'étais petit, quoi. J'avais 16 ans. Et j'ouvre ce livre et je tombe sur un passage bizarre du Voyage au bout de la nuit. Il est blessé, il raconte qu'il va à l'hôpital et il raconte dans le voyage « J'avais écrit enfin à ma mère ». Elle était heureuse de me retrouver, ma mère, et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son petit. Elle croyait aussi sans doute m'aider beaucoup en m'embrassant, mais elle demeurait cependant inférieure à la chienne, parce qu'elle croyait aux mots, elle, qu'on lui disait pour m'enlever. La chienne, au moins, ne croit que ce qu'elle sent. Avec ma mère, nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l'hôpital. une après-midi à marcher en traînant dans les ébauches des rues qu'il y a par là, des rues aux lampadaires pas encore peints entre les longues façades suintantes aux fenêtres bariolées de 100 petits chiffons pendants, les chemises des pauvres à entendre le petit bruit du graillon qui crépite à midi, orage des mauvaises graisses, dans le grand abandon mou qui entoure la ville, qu'est-ce qu'on peut mieux définir la banlieue que par cette phrase incroyable, dans le grand abandon mou qui entoure la ville, là où le mensonge de son luxe vient se hinter et finir en pourriture, la ville montre à qui veut le voir son grand derrière en boîte à ordures. Il y a des usines qu'on évite en se promenant, qui sentent toutes les odeurs, les unes à peine croyables, et où l'air d'alentour se refuse à puer davantage. Et là, c'est un chef-d'œuvre. Tout près, moisit la petite fête foraine entre deux hautes cheminées inégales. Ces chevaux de bois dépeints sont trop coûteux pour ceux qui les désirent, pendant des semaines entières souvent. Petit morveux rachitique, attiré, repoussé et retenu à la fois tous les doigts dans le nez par leur abandon, la pauvreté et la musique. Tout se passe en effort pour éloigner la vérité de ces lieux qui revient pleurer sans cesse sur tout le monde. On a beau faire, on a beau boire et du rouge encore, épais comme de l'encre, le ciel reste ce qu'il est là-bas. Bien fermé dessus comme une grande mare pour les fumées de la banlieue. Par terre, la boue vous tire sur la fatigue et les côtés de l'existence sont fermés aussi bien clos par des hôtels et des usines encore. C'est déjà des cercueils, les murs de ce côté-là. Lola bien partie, m'usine aussi, je n'avais plus personne. C'est pour ça que j'avais fini par écrire à ma mère, question de voir quelqu'un. À 20 ans que je n'avais déjà plus que du passé. Et là, c'est sublime. Nous parcourûmes ensemble avec ma mère des rues et des rues du dimanche. Elle me racontait les choses menues de son commerce, qu'on disait autour d'elle de la guerre en ville, que c'était triste la guerre, épouvantable même, mais qu'avec beaucoup de courage, nous finirions tous par en sortir. Les tuer pour elle, c'était rien que des accidents, comme aux courses. Ils n'ont qu'à bien se tenir, on ne tombait pas. En ce qui la concernait, elle n'y découvrait dans la guerre qu'un grand chagrin nouveau qu'elle essayait de ne pas trop remuer. Il lui faisait comme peur ce chagrin, il était comblé de choses redoutables qu'elle ne comprenait pas. Elle croyait au fond que les petites gens de sa sorte étaient faits pour souffrir de tout, que c'était leur rôle sur la terre, et que si les choses allaient récemment aussi mal, ça devait tenir encore en grande partie à ce qu'ils avaient commis bien des fautes accumulées, les petites gens. Ils avaient dû faire des sottises sans s'en rendre compte, bien sûr, mais tout de même, ils étaient coupables, et c'était déjà bien gentil qu'on leur donne ainsi en souffrant l'occasion d'expier leurs indignités. C'était une intouchable, ma mère. Cet optimisme résigné et tragique lui servait de foi et formait le fond de sa nature. Nous suivions tous les deux les rues allotires. Sous la pluie, les trottoirs par là enfoncent et se dérobent. Les petits frênes en bordure gardent longtemps leurs gouttes aux branches en hiver, tremblantes dans le vent. Mince féerie, le chemin de l'hôpital passait devant de nombreux hôtels récents. Certains avaient des noms, d'autres n'avaient même pas pris ce mal. À la semaine qu'ils étaient, tout simplement. La guerre les avait vidés brutalement de leur contenu de tâcherons et d'ouvriers. Ils y rentreraient même plus pour mourir, les locataires. C'est un travail aussi, ça, mourir. Mais ils s'en acquitteraient dehors. Ma mère me reconduisait à l'hôpital en pleurnichant. Elle acceptait l'accident de ma mort. Non seulement elle consentait, mais elle se demandait si j'avais autant de résignation qu'elle-même. Elle croyait à la fatalité autant qu'au beau maître des arts et métiers, dont elle m'avait toujours parlé avec respect parce qu'elle avait appris étant jeune que celui dont elle se servait dans son commerce de mercerie était la copie scrupuleuse de ce superbe étalon officiel. Et ça se termine par « Entre les lotissements de cette campagne déchue existaient encore quelques champs et cultures de ci, de là, et même accrochés à ces bribes quelques vieux paysans coincés entre les maisons nouvelles. Quand il nous restait du temps avant la rentrée du soir, nous allions les regarder avec ma mère, ces drôles de paysans. s'acharner à fouiller avec du fer cette chose molle et grenue qu'est la terre, où on met à pourrir les morts et d'où vient le pain quand même. Ça doit être bien dur, la terre, qu'elle remarquait chaque fois en les regardant ma mère, bien perplexe. Elle ne connaissait en fait de misère que celle qui ressemblait à la sienne, celle des villes. Elle essayait de s'imaginer ce que pouvait être celle de la campagne. C'est la seule curiosité que je lui ai jamais connue à ma mère, et ça lui suffisait comme distraction pour un dimanche. Elle rentrait avec ça en ville. Et voyez, je vous le lis là, 40 ou 50 ans plus tard, je suis sur le cul, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis partagé entre l'horreur du personnage et le génie d'avoir parlé de ce moment avec sa mère. Ce moment où la mère demande, ça doit être bien dur la terre, c'est dur, c'est cruel avec sa mère. Il n'y a pas de sentimentalisme, il n'y a pas ce que nous traversons constamment dans notre époque. Et en même temps, cette mère, on la sent, ça doit être bien dur qu'elle remarquait. Et il va jusqu'à dire, elle ne connaissait en fait de misère que celle qui ressemblait à la sienne, celle des villes. Elle essayait de s'imaginer ce que pouvait être celle de la campagne. Et là, c'est drôle et tragique. C'est la seule curiosité que je lui ai jamais connue à ma mère. Et ça lui suffisait comme distraction pour un dimanche. Et il dit ces quelques mots, elle rentrait avec ça en ville. Le ça, le fameux ça de Grodeck, est nourri, totalement nourri. Elle rentrait avec ça en ville. Alors évidemment, ce n'est pas une vision de l'être humain éblouissante, hein. Ce n'est pas des héros. C'est des gens pathétiques, miséreux, misérables, psychiquement, humainement, et c'est la vie. Le voyage au bout de la nuit est encore un livre écrit normalement. Il n'a pas encore trouvé son rythme, sa capacité à restituer l'émotion du langage parlé dans la langue écrite. C'est encore écrit, je dirais, de manière classique. C'est pour ça qu'il n'aimait pas particulièrement ce bouquin. Et pour voir à peu près la métamorphose de sa langue, on n'oublie pas que le personnage est abject. Évidemment que jamais me viendrait à l'idée de lire autre chose que Mort à crédit et le voyage, ça va sous le sens. Quand on pense que cet écrivain qui a eu les positions politiques, racistes, etc., a pu écrire le premier chapitre de Mort à crédit, qui est, Frédéric Vitou me le disait toujours, mais c'est unique dans l'histoire de la littérature, nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre, ils ont dit des choses, ils m'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis, ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Hier à 8h, Madame Bérange, la concierge, est morte. Une grande tempête s'élève de la nuit tout en haut où nous sommes, la maison tremble. C'était une douce et fidèle et gentille amie. Demain, on l'enterre rue des Saules. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit dès le premier jour, quand elle a toussé, « Vous allongez pas surtout, restez assise dans votre lit. » Je me méfiais. Et puis voilà. Et puis tant pis. Évidemment que c'est terrible parce que c'est un effet efficace. Évidemment que c'est incroyable de faire de l'humour là-dessus, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux ? Je lui ai dit dès le premier jour quand elle a toussé, ne vous allongez pas surtout, restez assise dans votre lit. Et la phrase est étonnante, je me méfiais. Et puis voilà. Et puis tant pis. J'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Je vais leur écrire qu'elle est morte, Madame Bérange, à ceux qui m'ont connu, qui l'ont connu. Où sont-ils ? Je voudrais que la tempête fasse encore bien plus de boucan, que les toits s'écroulent, que le printemps ne revienne plus, que notre maison disparaisse. Elle savait, Madame Bérange, que tous les chagrins viennent dans les lettres. Je sais plus à qui écrire. Tous ces gens sont loin. Ils ont changé d'âme pour mieux trahir, mieux oublier, parler toujours d'autre chose. Vieille Madame Bérange, son chien qui louche, on le prendra, on l'emmènera. Tout le chagrin des lettres depuis 20 ans bientôt s'est arrêté chez elle. Il est là dans l'odeur de la mort récente, l'incroyable aigre-goût. Il vient d'éclore, il est là, il rôde, il nous connaît, nous le connaissons à présent. Il ne s'en ira plus jamais, il faut éteindre le feu dans la loge. À qui vais-je écrire ? Je n'ai plus personne. Plus un être pour recueillir doucement l'esprit gentil des morts. Pour parler après ça plus doucement aux choses. Courage pour soi tout seul. Sur la fin, ma vieille bignole, elle ne pouvait plus rien dire. Elle étouffait, elle me retenait par la main. Le facteur est entré, il l'a vu mourir. Un petit hoquet, c'est tout. Bien des gens sont venus chez elle autrefois pour me demander. Ils sont repartis loin, très loin, dans l'oubli. Se chercher une âme, le facteur a ôté son képi. Je pourrais dire, moi, toute ma haine. Je sais. Je le ferai plus tard s'ils ne reviennent pas. J'aime mieux raconter des histoires. J'en raconterai de telles qu'ils reviendront exprès pour me tuer des quatre coins du monde. Alors ce sera fini et je serai bien content. On ne peut pas ne pas voir la prophétie, ça s'est écrit après le voyage. Et il n'y a pas encore les pamphlets antisémites, c'est 35 je crois, c'est oui, ou 34, 35. Bon, c'est son deuxième bouquin. Le voyage a fait un événement gigantesque et Mort à crédit est un bide. Et là, ça a commencé, c'est à cause des Juifs, et ça a commencé. Et l'aigreur, et le ressentiment, la haine, la jalousie, le fantasme a commencé. Et il termine, on dirait d'une manière prophétique, parce que c'est sa vie qui est là. Hein, bien des gens sont venus chez elle autrefois pour me demander. Ils sont repartis loin. Très loin dans l'oubli, se chercher une âme. Le facteur a ôté son képi. Je pourrais, moi, dire toute ma haine. Ah oui, ben il va l'écrire, hein. Je sais, je le ferai plus tard s'ils ne reviennent pas. J'aime mieux raconter des histoires. J'en raconterai de telles qu'ils reviendront exprès pour me tuer des quatre coins du monde. Alors, ce sera fini. Et je serai bien content.
Louis-Ferdinand Sénil, vous êtes un drôle de personnage. Oui. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Quels sont les écrivains que vous sentez les plus proches de vous et ceux qui vous paraissent aux antipodes ?
Des écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Alors, des histoires, il y en a plein dans la rue, n'est-ce pas ? J'en vois partout des histoires. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire, n'est-ce pas ? Et 1000 histoires. Il y a une clinique, je verrai toujours...
Mais vous parlez du style, est-ce qu'il n'y a pas, chez l'écrivain, un tempérament ?
C'est rare, un style, monsieur. Un style, il y en a 1, 2, 3 par génération. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas ? Ils rampent dans des phrases, ils répètent ce que l'autre a dit, ou ils choisissent une histoire, ils prennent une bonne histoire, puis ils disent « je vois, tu, etc. » C'est pas intéressant.
On va maintenant, évidemment, parler d'un Céline moins déprimant, moins pathétique. On va parler du Céline rabelaisien. Et il y a une illustration parmi plein d'autres, mais enfin, il y en a une quand même que je jouais souvent dans mes spectacles. C'est ce pote qu'il a, qui s'appelle Gustin Sabaillot. Et Gustin Sabaillot est un toubib assez connu, enfin assez important. Il a l'air d'être une référence pour Céline, il est toubib. Et voilà comment Céline parle de ce toubib. Gustin Sabaillot, sans lui faire de tort, je peux bien répéter quand même qu'il s'arrachait pas les cheveux à propos des diagnostics. C'est sur les nuages qu'il s'orientait. En quittant de chez lui, regardait d'abord tout en haut. Ferdinand qui me faisait, aujourd'hui, ça sera sûrement des rhumatismes, sans sous. Il lisait tout ça dans le ciel. Il se trompait jamais de beaucoup puisqu'il connaissait à fond la température et les tempéraments divers. Ah, voilà un coup de canicule. Après les fraîcheurs, retiens, c'est du calomel, tu peux le dire déjà. La jaunisse est au fond de l'air. Le vent a tourné, nord sur l'ouest, froid sur averse. C'est de la bronchite pendant 15 jours. C'est même pas la peine qu'il se dépiote. Si c'est moi qui commandais, je ferais les ordonnances dans mon lit. Au fond, Ferdinand, dès qu'ils viennent, c'est des bavardages. Pour ceux qui en font commerce encore, ça s'explique. Mais nous autres, au moins, à quoi ça rime? Je les soignerai, moi, sans les voir. Tiens, les pilons, d'ici même, ils en étoufferont ni plus ni moins. Ils vomiront pas davantage. Ils seront pas moins jaunes, ni moins rouges, ni moins pâles, ni moins cons. C'est la vie. Pour avoir raison, Gustin, il avait vraiment raison. Tu les crois malades? Ça gémit, ça rôde, ça titube, ça pustule. Tu veux vider ta salle d'attente? Instantanément? Même de ceux qui s'en étranglent à se ramener les glaviots? Propose un coup de cinéma, un apéro gratuit en face, tu vas voir combien qu'il t'en reste. S'ils viennent te relancer, c'est d'abord parce qu'ils s'emmerdent, t'en vois pas à la veille des fêtes. Au malheureux, retiens mon avis, Ferdinand, c'est l'occupation qui manque, c'est pas la santé. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les distrais, les émoustilles, les intrigues avec leurs renvois, leurs gaz, leurs craquements, que tu leur découvres des rapports, des fièvres, des gargouillages, des inédits. Que tu t'étendes, que tu te passionnes, si c'est pour ça que t'as des diplômes. Ah, s'amuser avec la mort tout pendant qu'il la fabrique, ça c'est tout l'homme, Ferdinand. Ils la garderont leur chaudpisse, leur vérole, tout leur tubercule, ils en ont besoin. Et leur vessie bien baveuse, leur rectum en fait, tout ça n'a pas d'importance. Mais si tu te donnes assez de mal, si tu sais les passionner, ils t'attendront pour mourir. C'est ta récompense, ils te relanceront jusqu'au bout. Quand la pluie revenait un coup entre les cheminées de l'usine électrique. Ferdinand qui m'annonçait, voilà les sciatiques. S'il n'en vient pas 10 aujourd'hui, je veux bien rendre mon papelard au doyen. Mais quand la suie rabattait, c'est génial, s'il en vient pas 10 aujourd'hui, je peux rendre mon papelard au doyen. Vous voyez pourquoi Audiard a toujours adoré Céline, mais on voit d'où c'est parti, même Audiard. Hein. S'il en vient pas 10 aujourd'hui, je peux rendre mon papelard au doyen. Mais quand la suie rabattait vers nous de l'est, quel versant le plus sec, par-dessus les fourbes bitronnelles, il s'écrasait une suie sur le nez. Je veux être enculé, tu m'entends, si cette nuit même les pleurétiques crachent pas leurs caillots. Merde à Dieu, je serai encore réveillé 20 fois. Des soirs, ils simplifiaient tout. Ils montaient sur l'escabeau devant la colossale armoire aux échantillons. C'était la distribution directe, gratuite et pas solennelle de la pharmacie. Vous avez des palpitations, vous, la Ricovert ? Qui demandait à la miteuse. J'en ai pas. Vous avez pas des aigreurs et des pertes ? Si, un petit peu. Alors prenez de ça où je pense, dans 2 litres d'eau. Ça vous fera un bien énorme. Et les jointures, elles vous font mal ? Vous avez pas d'hémorroïdes ? Et à la selle, on y va. Voilà des suppositoires pépettes. Des verres aussi, avez-vous remarqué? Tenez, 25 gouttes Mirobol au coucher. Il proposait tous ses rayons, il y en avait pour tous les dérèglements, toutes les diathèses et les manies. Un malade, c'est horriblement cupide. Hein, du moment qu'il peut jeter une saloperie dans le cornet, il n'en demande pas davantage, il est content de se tricher. Il a grand peur qu'on le rappelle. Au coup du cadeau, je l'ai vu, moi, Augustin, rétrécir à 10 minutes. Des consultations qui auraient duré au moins 2 heures, conduites avec des précautions. Et dans mon spectacle, je continuais en disant « Il gagnera pas son beefsteak », a prédit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà beaucoup trop de médecins par ici, et c'était exactement observé. En banlieue, c'est surtout par les tramways que la vie vous arrive le matin. Il en passait des pleins paquets avec une pleine bordée d'ahures, il brinque-ballant dès le petit jour, par le boulevard Minotaure. Les jeunes, ils étaient presque comme contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marchepied, les mignons en rigolant, faut voir ça. Mais quand on connaît la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, si sale qu'on la prend toujours pour les chiottes, l'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec Rancy en particulier. On se rend alors compte où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu'elles sont, plates façades. Leur cœur est au propriétaire. Lui, on le voit jamais. Il oserait pas se montrer. Il envoie son gérant, la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable, proprio, quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit. du jus de fumée qui trempe la plaine depuis le Valois, des rebuts de Baptiste tenus par des gadous noirs au sol, les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous.
Lucienne Destouches, femme de Céline.
Quand il travaillait, il me lisait donc le chapitre le soir de son travail, oui. N'est-ce pas, pour sentir, pour, d'abord sans doute pour s'entendre lui-même, puisque oui. Tout était rythmé, c'était donc un rythme, une musique.
Oui.
Et en même temps, sans doute, pour moi je ne pouvais pas donner mon avis, mais enfin, peut-être, il essayait de voir l'effet que ça pouvait faire, probablement.
Quand il écrivait quelque chose, il faisait plusieurs versions, je crois, non?
C'est-à-dire, il recommençait sans cesse son ouvrage jusqu'à temps qu'il le sente. Prêt.
Oui.
Alors donc, il faisait des ratures, mais à chaque fois, il reprenait le tout. Il recommençait. Il arrivait à faire 10 fois certainement le livre, avant de terminer. Il n'était jamais content. Je crois qu'il aurait pu le faire éternellement, mais enfin, à un moment donné, il s'arrêtait. Mais c'était des reprises et des reprises du livre en entier.
Et qu'est-ce qu'il admirait le plus dans la vie? Enfin, qu'est-ce qu'il trouvait
beau? La légèreté, les choses qui sont... La poésie. Il aurait rêvé d'être poète, mais seulement poète.
Voilà une musique qui paraît bizarre, mais Paul Morand était le seul écrivain que Céline reconnaissait vaguement, hein, un peu Proust, même s'il considérait que tous ces personnages, qu'il était très doué, que c'était un grand écrivain, même si ces personnages, comme il les définissait, sont des partousards indécis, attendant leur bateau toujours, chercheurs sans emprunt, d'improbables citaires. Mais il avait, alors il aimait, bon, les écrivains qu'il aimait, c'est très simple, hein, c'était Rabelais en premier, évidemment, François Villon par-dessus tout, La Fontaine, bizarrement, La Fontaine, et dans les contemporains, il acceptait évidemment le génie de Proust, et puis Paul Morand. Et il a dit de Paul Morand, il a amené le jazz. Alors je me suis dit, puisque Paul Morand a amené le jazz, Paul Morand avec qui on n'aurait pas aimé déjeuner, comme dit Régis Debray, eh bien, moi je connais très mal Paul Morand, eh bien on va mettre Miles Davis, qui est le dieu absolu, avec l'immense Coltrane.
Sur France Inter, Fabrice Lucchini et ses admirations littéraires.
Dans la première émission que j'ai faite, j'ai eu l'ambition de vous parler des grands portraitistes. Alors, je vous ai mis de côté Saint-Simon. Première émission, déjà que Jean Cause sur Gallimard, c'est un peu abstrait. Il n'est pas le moment d'amener du Saint-Simon ou du Tocqueville ou du Madame du Deffand, qui sont des portraitistes de génie du XVIIe, XVIIIe siècle. Et j'en ferai certainement un jour, dans un an ou deux, un spectacle. Mais Il y a un portrait de Céline que j'aime énormément, c'est la tante à Bébert. C'est un moment où Céline sort d'une consultation en pleine nuit, je crois que c'est une femme qui avortait, et la mère voulait pas qu'elle aille à l'hôpital, que parce qu'après on dirait du mal, machin, et il en peut plus, il est impuissant, et il ressort épuisé, il est 6h du matin, et il découvre le petit Bébert, qui est le personnage le plus lumineux du voyage. C'est cet enfant qui va mourir et que Céline va pas réussir à soigner, et cet enfant va mourir. Et il est une merveille, c'est la seule lumière dans le voyage. Hein, il le décrit de manière extraordinaire. Et puis ce matin-là, j'ai rencontré Bébert qui gardait la loge de sa tante. Lui aussi soulevait un nuage de poussière avec son balai. Bébert, qui ferait pas sa poussière dans ces heures-là, vers les 7 heures, passerait pour un fameux cochon dans sa propre rue. Carpet de secouée, signe de propreté, ménage bien tenu. Ça suffit. On peut puer de la gueule, on est tranquille après ça. Sur sa face livide à Bébert, dans ce tait, cet infini petit sourire d'affection pure que je n'ai jamais pu oublier. Une gaieté pour l'univers. Peut-être on entend encore assez après les 20 ans passés de cette affection facile, celle des bêtes. Le monde n'est pas ce qu'on croyait, voilà tout. Alors on a changé de gueule en moins de deux. Hein? Et tout d'un coup, il voit la tante à Bébert débarquer. La tante à Bébert rentrait des commissions. Elle avait déjà pris le petit verre. Faut bien dire également qu'elle reniflait un peu les terres, habitude contractée alors qu'elle servait chez un médecin et qu'elle avait eu si mal aux dents de sagesse. Il ne lui en restait plus que deux, des dents par devant, mais elle manquait jamais de les brosser. Quand on est comme moi, qu'on a servi chez un médecin, on connaît l'hygiène. Elle donnait des consultations médicales dans le voisinage et même assez loin, jusque sur Beson. C'est merveilleux parce que lui n'a pas un client, il est tout bib et il arrive à être dépassé par la tante à Bébert qui est bourrée, shootée à l'éther. Et il dit cette phrase étonnante, elle donnait des consultations médicales dans le voisinage et même assez loin, jusque sur Beson. Ça devient les plaines russes, la banlieue. Cette banlieue, grâce au génie de la transformation, ça devient, elle donnait des consultations médicales dans le voisinage et même assez loin, jusque sur Beson. Vous entendez ? Jusque sur Beson. Et là, il dit, Céline, il m'aurait intéressé de savoir si elle pensait quelquefois à quelque chose, la tante à Bébert. Non, elle ne pensait à rien. Elle parlait énormément sans jamais penser. Quand nous étions seuls, sans indiscret alentour, elle me tapait à son tour d'une consultation. C'était flatteur dans un sens. « Bébert, docteur, faut que je vous dise, parce que vous êtes médecin, c'est un petit saligo. Il se touche. Je m'en suis aperçu depuis 2 mois et je me demande qui est-ce qui a pu lui apprendre ces saletés-là. Je l'ai pourtant bien élevé, moi. Je lui défends, mais il recommence. Dites-lui qu'il en deviendra fou, conseillais-je. » Classique. Bébert qui nous entendait n'était pas content. « Je me touche pas, c'est pas vrai. C'est le môme Gaga qui m'a proposé. » « Ah, voyez-vous, je m'en doutais, » fit la tante. « Dans la famille Gaga, vous savez, ceux du 5e, c'est tous des vicieux. » Le grand-père, il paraît qu'il courait après les dompteuses. Je vous demande, des dompteuses ? Dites-moi, docteur, pendant qu'on est là, vous pourriez pas lui faire un sirop pour l'empêcher de se toucher ? Je la suivis jusque dans sa loge pour prescrire un sirop anti-vis pour le môme Bébert. J'étais trop complaisant avec tout le monde et je le savais bien, personne ne me payait. J'ai consulté à l'œil, surtout par curiosité. C'est un tort. Les gens se vengent des services qu'on leur rend. Vous devriez peut-être, docteur, a dit la tante à Bébert, aller voir la dame à l'entresol du 4 de la rue des Mineurs. C'est un ancien employé de notaire. On lui a parlé de vous. On lui a dit que vous étiez un médecin, tout ce qu'il y a de gentil avec les malades. Je sais tout de suite qu'elle est en train de me mentir, la tante.
Il m'est arrivé quelque chose de bien particulier, n'est-ce pas ? J'ai cessé d'être écrivain, n'est-ce pas ? Pour devenir un chroniqueur. Alors j'ai mis ma peau sur la table. Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Quelle était votre plus grande joie dans la vie, justement ?
Ben, mon Dieu, je dois vous avouer que je n'en ai pas beaucoup. Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. N'est-ce pas ça ? Ça faut appris que... non, j'avoue que je serai content quand je mourrai. Voilà, la vérité, c'est que je me désire mourir de façon la moins douloureuse possible.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. La technique a été assurée, mais vraiment d'une manière absolument remarquable, par Guillaume Ficheux. Et la musique a été organisée par Thierry Dupin. Tout ça a été possible grâce à l'aide précieuse de mon épouse Emmanuelle Garassino. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours si vous le désirez, à 19h20, pour une lecture d'un autre extrait du chef-d'œuvre Voyage au bout de la nuit, du terrifiant, affreux, horrible Céline, mais particulièrement sur son arrivée en Amérique, sa fameuse phrase « Figurez-vous qu'elle était debout leur ville ». Alors, très bonne soirée à vous.